Le pharaon, ensuite Abimelech, enfin la situation se règle parfaitement. L'enseignement vient du Rabbi Tzraï. Il a posé, ça vaut la peine d'ouvrir une parenthèse si vous voulez, il a posé la question suivante. La Torah, à propos de la sortie du Grec, interdit les sacrifices hors du temple. Or, le sacrifice fondateur de l'histoire d'Israël, c'est le sacrifice de Pâques qui a été fait en Égypte. Donc, question grave. Bon, de donner X réponses, mais pour un essentiel enseignement de Rabbi Tzraï, ici, il y a deux sortes de sainteté. Il y a la sainteté qui est dans la maison, et la sainteté qui est dehors. De la même manière, il dit, il y a deux sortes d'amour. Il y a deux, l'amour qui est permis dedans et dans la maison, interdit dehors, c'est l'amour entre l'époux et l'épouse. C'est privé, en public, c'est interdit. Vous comprenez, c'est pas fait de mettre. Et il y a l'amour du frère pour la sœur, c'est permis dehors, mais c'est interdit dedans. Alors, au niveau du premier homme, il y a un progrès dans les rapports d'autrui à autrui, centraux, c'est-à-dire l'homme et la femme. On dépasse Zahar ou Keva, mâle et femelle, la sexualité qui reste dans l'animal, on devient Ish-Isha, époux-épouse. Et c'est pas fini. La reconnaissance de la relation à autrui, et la relation à autrui fondamentale, c'est d'abord homme-femme, c'est clair, eh bien, est en impasse. À partir du moment où l'histoire des Hébreux recommence, c'est le problème qu'Abraham reprend en charge. Il se passe rien d'autre, hein, entre Abraham et Sarah. Dis que t'es ma sœur, jusqu'à ce qu'elle dise qu'il est son frère, pour que ça s'arrange, par exemple, Isaac et Rebecca. Ils se disent rien d'autre, hein. Et alors, le Rabbi Tzraï m'explique, son drache très profond, il explique ceci, tant que l'amour n'est que de l'homme à la femme, c'est pas achevé, il faut qu'il soit aussi du frère à la sœur. Et alors voilà que, au stade où Abraham a reconnu que sa femme c'est sa sœur, il commence à témoigner, à voyager, à témoigner. D'où l'histoire des douanes égyptiennes. Okay. Et ce message a été entendu, et puis il n'a travaillé que souterrainement, et vous savez très bien que c'est un des grands problèmes de la société contemporaine. Comment comprendre la relation entre l'homme et la femme? Et c'est dans des impasses, tant qu'on n'arrive pas à retrouver l'équation biblique, que donc ces deux relations de dignité se complètent, la relation époux-épouse et la relation frère-sœur. Ce n'est que lorsque Rivka dira d'Isaac, je suis sa sœur et il est mon frère, Isaac rit, vous verrez le verset. Alors que son nom, c'est qu'il rira à la fin des temps. Ce n'est que lorsqu'il entend de Rivka s'est arrangé, le tikkun a été fait, nous sommes frères et sœurs à la vie. Mais le pharaon, à l'extérieur, Abimelech, dans l'histoire, le deuxième épisode chez Abraham et chez Isaac, il n'y comprend rien. Alors il dit, je croyais qu'elle était disponible, je l'ai prise. Voilà. J'ai voulu mettre en évidence ce parallèle avec l'histoire d'Israël et de sa sagesse, parce que Fesraïm y fait allusion en citant les versets, par exemple, les versets des Proverbes, est mort la Chokhma. Dis à la sagesse, tu es ma sœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Tant que tu dis, elle est ma femme, c'est une sagesse privée, particularise. Dis, elle est ma sœur, formule-la à l'échelle universelle. Où est le danger? Elle est ta sœur. Alors on se la prend, pour être sûr, on te supprime. Ah, c'est ce que vous dites. Et ou bien le verset 1000 du Cantique des Cantiques, Mi tencha ke'ahli yonek shedei mi vechule, traduit. Qui fera de toi comme un frère, c'est elle qui parle à lui, allaitant les seins de ma mère, je te rencontrerai dehors, emsa habachutz et chakra, je t'embrasserai, les gammes au yabouzou, et on ne me méprisera pas. Vous voyez, la relation entre le frère et la sœur, c'est dehors. Alors, c'est elle qui parle à son mari et qui lui dit, qui fera de toi mon frère que je puisse t'embrasser dans la rue? Vous voyez à peu près le thème. C'est cette dialectique entre le particularisme et l'universel. Alors comment ça se traduit dans notre problème? Sarai, c'est le temps où elle est ma princesse. Sarah, la princesse. Alors il y a toute une dialectique de la Gemara que nous allons voir. Et alors, maintenant qu'elle est la princesse, elle n'est plus ma princesse. Je dis non, elle reste ma princesse. bien qu'étant là presque. Mais comment ça s'organise du point de vue formel? Elle a changé de nom, mais le nom antérieur est gardé. Maintenant, on est les Hébreux, alors qu'on va oublier l'araméen. Non, on le met à sa place. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est clair? Non. D'ailleurs, sans araméen, on ne peut pas comprendre l'hébreu. C'est encore une autre histoire. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je vais vous dire comment. À la limite, je voudrais choquer personne. Mais ça ne va pas être une histoire du temps de l'occupation. On accusait les Juifs de prendre tous les métiers. Vous vous rappelez? Même rabbin, elle dit juif. Je vous dirais ça comme ça. Au fond, pour être rabbin, il faut être juif. C'est pas une blague. Qu'est-ce qu'un rabbin? C'est quelqu'un qui est censé comprendre la Bible. Pour ça, il faut être juif. C'est-à-dire qu'à la limite, je dirais, il n'y a que les Juifs qui comprennent l'hébreu. Vous allez me dire, alors c'est vrai qu'il n'y a que les Français qui comprennent. C'est vrai. Vous avez compris ce que je veux dire? Bon, bref, c'est clair. Okay. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, je crois que c'est un des exemples, une des illustrations de la réaction contre une certaine forme de puritanisme sociologique. C'est pas cela, mais indépendamment de cela, il y a dans la société contemporaine une recherche réelle de la nature réelle des liens dans le couple. Et ici, il y a un enseignement biblique qui est très important. Lorsque la relation époux-épouse est transfigurée, au point, ce n'est pas fini. Il faut qu'elle débouche sur la relation frère-sœur. La recherche en fraternité qui se recherche dans les récits bibliques n'est accomplie que si ça va jusque-là. Il y a un adjectif pour sœur, mais je l'ai oublié en français. Soralité, c'est très important ces versets qui nous sont cités. Alors il y a la sagesse épouse et la sagesse sœur. Le Rav Etzraïm m'indique en citant un des versets: Chochmot bachutz tarona. Les sagesses chantent dehors, dans les rues. C'est les chochmot chitzoniot, les sagesses extérieures, qu'on appelle dans le vocabulaire traditionnel juif les sciences. Les sciences, de la science, c'est les chochmot chitzoniot. Ça veut dire c'est les sciences du monde extérieur. Et la sagesse épouse, c'est la Torah. Elles doivent éclairer ensemble. Et vous voyez que c'est l'implication de tout ce problème. Okay. Alors, il y a dans la Chochma l'aspect épouse et l'aspect sœur. L'aspect épouse de la Torah ne concerne qu'Israël. L'aspect sœur de la Torah concerne les nations. Le danger, je l'ai cité dans l'histoire d'Abraham. Est-ce que c'est ta sœur, est-ce que c'est ta femme? Vous avez compris la cohérence donc, de cette enseignement. Et je crois qu'on le voit bien. Lorsque l'islam s'est annexé la Bible dans le Coran, bon, il a mis les juifs entre parenthèses. Lorsque la chrétienté s'est annexée la Bible dans les évangiles, elle a mis le judaïsme entre parenthèses, etc., etc., etc. Jusqu'au moment où, enfin, les nations comprendront que la Torah, c'est sœur pour l'universel humain, mais épouse pour Israël. Ça commence. Je crois que ça commence. En tout cas, dans mon chrétien, dans mon musulman, je suis assez au courant, on est loin de loin. Et j'ai dit une fois, des dernières interviews, j'ai lu au temps de Noël à Jérusalem, des journalistes français, je crois de l'Express, je ne sais pas si vous avez vu ça, sont venus faire un documentaire sur la Jérusalem chrétienne. Tenez, je vous raconte, la Jérusalem chrétienne. J'ai reçu ces journalistes, et puis je leur ai dit, j'essaie de parler avec vous si vous changez de titre. Et ça n'existe pas la Jérusalem chrétienne. Allez voir à Rome. Il y a des chrétiens à Jérusalem, 200 peu près. Ils ont changé de titre. Et alors, j'ai indiqué cela, c'est que là, il y a une amorce, une volonté de dialogue réel qui n'a pas existé jusque-là, judéo-chrétien. Comme a dit M. Touchani hier soir, on ne s'est jamais parlé pendant 2000 ans. On va croire qu'il y a un dialogue judéo-chrétien pendant 2000 ans. N'existait pas. Je voulais, je peux en parler, c'est l'histoire, mais c'est clair. Il ne s'agissait que d'une stratégie de conversion de l'interlocuteur juif, et si jamais l'interlocuteur juif l'emportait dans la controverse, il était attendu par les archives du roi. C'est clair. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle Nahmanide a quitté l'Espagne et a fondé la première synagogue sfarade de Jérusalem, que vous citez si vous y allez, lorsqu'il s'est aperçu qu'il n'y a aucun espoir. Il était dans ses controverses avec les théologiens chrétiens. Donc, il y a quelque chose qui commence. Une élite en milieu chrétien, ils ne sont pas très nombreux, mais ils sont sincères. C'est vrai, et ça existe. S'il y a la place de dire ça peut être une élite, selon le français même, israélite. Je reviens au problème, c'est que pour le moment, il n'y a rien d'ici. Alors, on m'a posé la question, et avec l'éthologie chrétienne. L'éthologie chrétienne, c'est bloqué, il n'y a rien. Musulman, quel. Et j'ai ajouté, ça a été imprimé, peut-être que cette éthologie chrétienne est intervenue. Parce que l'anti-judaïsme musulman est d'origine chrétienne. C'est clair. Alors, si les théologiens chrétiens interviennent, peut-être ça s'est déjà fait. En tout cas, pour le moment, avec les théologiens chrétiens, nous avons, lorsque ça arrive, des réunions mondaines, c'est-à-dire des salam alek. Vous en êtes un autre, mais pas plus. Vous voyez ce que je veux dire. Et il faudrait qu'il y ait aussi une crainte, parce que une menace de mort, quiconque chez les théologiens chrétiens aurait un dialogue sérieux avec les juifs. Je ne sais pas si vous avez dit. Donc, en tout cas, les arabes, les musulmans arabes, viennent. Avec les musulmans non arabes, il y a quelque chose. Mais je pense que tant que les théologiens chrétiens ne diront pas, bon, cet anti-judaïsme dont vous avez hérité des évangiles, on a mis un point final, recorrigez vos textes, et jusque-là, ça en est là. Je referme la parenthèse et on avance. Okay. Alors, Tané Bar Kappara, essayez avec Sarah, okay. Vous avez eu le problème. Sarakol, il y a un passage à l'universel de l'identité araméenne pour retrouver l'identité hébraïque qui est réciproquement, je dirais, le passage de l'identité araméenne à l'identité hébraïque, c'est le passage à l'universel. C'est pourquoi j'ai dit à la conférence de lundi soir, lorsque les juifs non-hébreux parlent d'universalisme, il s'agit la plupart du temps de cosmopolitisme et non pas de l'hébraïque. Ça se dévoile maintenant que la nation d'Israël est ressuscitée. Il se dévoile que le discours universaliste de beaucoup de juifs pendant 2000 ans n'était que du cosmopolitisme. Ce n'est que par le biais de l'identité nationale spécifique Israël que l'indice de passage à l'universel de l'identité hébraïque est cohérent. Sinon, il s'agit des juifs des nations, c'est-à-dire cosmopolites. Je crois qu'il faut dire cela avec beaucoup de franchise et de courage dans cette accusation d'antisémitisme quant au cosmopolitisme juif. Israël contemporain est responsable qu'il se dévoile que c'était peut-être pas complètement faux. On n'y peut rien, mais c'est cela. L'identité hébraïque de la nation d'Israël en Israël dévoile que beaucoup de discours universalistes juifs de diaspora sont en réalité cosmopolites. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair ce que j'ai dit, ça avec beaucoup de précautions. Hein. Cosmopolite, ça veut dire on ne fait partie d'aucune nation, on est greffé sur n'importe laquelle, est interchangeable. Et on formule ça dans un discours citoyen du monde. Citoyen du monde, ça n'existe pas. On est citoyen de telle ou telle société avec relation à l'universel. Citoyen du monde, c'est quoi? Ça n'existe pas. Cet homme de nulle part et de n'importe où, qui se dit c'est moi l'homme, il est en réalité très très précisément banlieusard de telle banlieue. Okay. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Par exemple, il y a tout un débat sur l'universel de la pensée de Spinoza. Et de grands historiens de la philosophie ont établi que c'est un saucinien. Un saucinien, c'est une espèce très rare de la société humaine et qui ne fleurit que dans le royaume d'Orange en Amsterdam hollandaise. Okay? C'est-à-dire c'est très typé du point de vue des catégories mentales. Est-ce que c'est clair? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas l'appel idéal, au niveau des idées, à l'idée de l'universel, mais incarnable nulle part, sinon dans des phalanstères orgueilleux de quelques philosophes qui se rencontrent en collège, pour mépriser le vulgus humain. Je pense à Lucrèce, okay, je ne sais pas si vous voyez à quoi je fais allusion, à la grande philosophie épicurienne, d'orgueil méprisant sur le peuple humain, nous l'élite philosophique, c'est nous l'homme authentique, c'est nous l'universel humain, la mafia des philosophes. Je pourrais même vous citer ça dans la tête. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous voyez à peu près la gravité du problème. Alors, si j'ai réussi à distinguer ces deux notions, universalisme réel, et je vous donne la constellation biblique de ce problème, et cosmopolitisme, je crois qu'il y a, à part cet universel hébreu dont parle la Bible, au niveau de la personne humaine, il y a un seul universel réel. Je pense toujours au niveau du langage, je vous rappelle du premier verset duquel nous sommes partis. L'universel concret, c'est quand il y a langue unique. C'est les mathématiciens. Les mathématiciens ont une langue universelle, et en tant que mathématiciens, ils font partie d'une société universelle, les mathématiciens. Okay. Est-ce que c'est clair? La mathématique est une langue universelle, réellement, concrètement. Je crois que c'est la seule. Et à travers la mathématique, elle donne un peu de cela à toutes les autres sciences dans la mesure où elle est le langage des sciences. On peut parler à la limite d'une communauté universelle des scientifiques authentiquement mathématiciens. Les philosophes sont des chapelles. Il y a une envolée vers le rêve de l'universel. Mais dès qu'on prétend l'incarner dans un langage philosophique particulier, il y a un impérialisme de la pensée. J'allais dire, non, vous n'avez pas idée, mais vous avez idée. Et il va lire les livres des philosophes. Il y a un terrorisme du langage philosophique prétendument universaliste, qui ne fait pas partie de la grammaire de tel ou tel philosophe, ne fait pas partie de l'universel humain. Il n'y a pas d'impérialisme pire que ça. Bien. Je dirais d'une autre manière, je l'ai reçu de mes maîtres, tous les prophètes disent la même chose. Il n'y a pas un philosophe qui dit la même chose que l'autre. En particulier, il faut citer Hegel, l'histoire de la philosophie, c'est l'histoire d'une dialectique. L'un contredit l'autre. Okay. Et projeter cette méthode de la dialectique philosophique dans le monde rabbinique, c'est ce que font beaucoup de livres contemporains qui paraissent en français et en américain d'ailleurs, ben c'est projeter le non-unique, la non-convergence, la non-existence d'une universelle philosophique dans l'universel talmudique. C'est-à-dire, l'étude du Talmud, c'est cela. Arriver à découvrir, et c'est une joie de l'étude considérable, que tout, c'est la même chose. Est-ce que c'est clair ce que vous dites? Mais on le perçoit qu'il n'y a aucune contradiction, une cohérence absolue. C'est le même enseignement. Dans tout ce qui est dit, c'est Moïse qui parle. Okay. Et alors que dans l'univers philosophique, ça ne manque pas d'effets culturels. Chaque philosophe a une grammaire géniale de lecture du monde, mais n'a rien à voir l'une avec l'autre. Et au contraire, le fin du fin de la cohérence, c'est de s'appuyer en s'opposant sur tout ce qu'on a appris des précédents. Et de s'en enorgueillir en plus. Okay. La preuve c'est que je suis spinoziste, c'est que je ne suis pas d'accord avec Descartes. C'est un peu aberrant, hein, à la limite, parce qu'il n'y aurait jamais eu Spinoza s'il n'y avait pas eu Descartes, en plus. C'est un exemple parmi d'autres. Voilà, je referme la parenthèse. Et où est-ce que nous sommes arrivés? On a encore un quart d'heure. Alors, on va faire l'économie de la sacca, si vous voulez, on achève à une heure. Tané Bar Kappara. Bar Kappara enseigne qu'on a corrélé Abraham, Abraham, au verbe as. Tout celui qui nomme Abraham, Abraham, transgresse un commandement. Vous voyez jusqu'où ça va? À partir du moment où le passage à l'universel a eu lieu, interdit de revenir en arrière. On n'appelle plus Abraham, Abraham. Vous voyez, peut-être je vais un peu exagérer dans la forme, mais je ne crois pas dans le fond. C'est comme ça qu'il faut comprendre tous ces Israéliens qui vous disent sans très bien maîtriser le langage qu'ils emploient, sans se rendre compte du caractère aberrant apparemment, disent en tant qu'Israéliens, ils ne sont plus juifs. Vous voyez à quoi je fais allusion, okay? Et ils n'arrivent pas à savoir s'exprimer, okay? Mais je crois que ça vise un peu cela. À partir du moment où la mutation araméen-hébreu s'est faite, on ne revient pas à la préhistoire. Qu'est-ce qu'ils entendent par là? Bien sûr, il y a tous les pièges là-dedans. Ils n'entendent pas par là le contenu des valeurs de l'identité juive, qui était la résistance des valeurs hébraïques. Ils entendent par là le statut historique, le statut sociopolitique. Et tout cela représente du point de vue de l'existence, le statut existentiel. Les Israéliens se considèrent comme des juifs sortis des ghettos. Non, c'est pas assez bien dit. Les Israéliens se considèrent comme des juifs sortis d'exil. Et l'exil, pour eux, c'est une préhistoire incompréhensible. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? Je dirais avec d'autres.
L'histoire un peu sérieuse de Hegel, c'est la Aufhebung qui est vécue comme réalisée en Israël, pour ces gens-là.
Par exemple, c'est-à-dire que il faut bien le comprendre. Toutes choses égales, un Israélien né dans le pays considère l'identité juive historique comme préhistorique, tout simplement. Et beaucoup d'Israéliens sentent qu'ils sont contemporains de leur préhistoire. Mais nous voyons ça dans nos familles. Quand je raconte mon enfance juive chez mon grand-père à mon petit-fils, il me regarde, les yeux écarquillés, il aime ça, les yeux écarquillés, comme si je lui parlais des dinosaures. Et je me rappelle encore, ma dernière petite fille, elle est maintenant mère de famille d'ailleurs, et toute mioche, quand elle était, elle faisait ses devoirs pour préparer à l'école, qui était étonnée, sérieusement, elle n'osait pas me le dire, mais elle a dit à sa mère, elle ne comprenait pas comment je savais l'hébreu. Elle était émerveillée. Papa comprend l'hébreu, mais en hébreu. Mais où il a appris? Il n'était pas à l'école israélienne. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors c'est un peu ça. À partir du moment où il y a Abraham, interdit de le ramener à Abraham. Et il y a cette tentation en Israël, qu'on appelle le cananéisme, la tentation de s'en tenir à un chauvinisme particulariste qui n'aurait rien, plus rien à voir de juif dans ce sens de relation à l'universel. Cette espérance que l'identité juive avait gardé sous la cendre. Est-ce que c'est clair? Je veux dire que d'une certaine manière, l'universel humain ne peut pas entendre la parole juive au nom d'Israël. Elle ne peut entendre que la parole hébraïque au nom d'Israël. Parce que la parole juive est trop particularisée dans le style aram. On est toujours judéo quelqu'un d'autre. Alors, lorsque c'est un juif français qui parle, et on entend un juif français, on n'entend pas Israël. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Un juif américain, et ça va à tous les particularismes. On peut faire une psychanalyse des philosophes juifs alsaciens, mais c'est de la pensée alsacienne. Judéo-alsacienne, mais c'est alsacien. Russe, suisse, il y a des penseurs juifs suisses, mais c'est suisse. Il y a des penseurs, je parle d'autorité rabbinique très noble, des penseurs juifs. Britanniques, on voit derrière la philosophie anglaise. Et on peut deviner si elle est galloise ou écossaise. C'est pas une plaisanterie pourrie, mais ça va jusque-là. Réfléchissez bien. Et vous verrez à quel point il y a ce reflet de la diaspora des nations chez les juifs. Et que l'identité hébraïque, je l'indexe à la société israélienne contemporaine, elle est autre, tout en étant d'origine juive. Je signale ça pour qu'on ait perception du monde de problèmes que cela implique et à quel point la communication entre Israéliens et Juifs est très difficile parce que derrière les mêmes mots, il y a déjà autre chose. Surtout au niveau sociologique. Okay? Et les malentendus effroyables qui peuvent... Quand par exemple un jeune israélien dira à un jeune juif de diaspora, moi je ne suis plus juif, je suis israélien, imaginez le malentendu. Le jeune juif de diaspora réagit en disant horreur, c'est un traître, alors que le vrai juif c'est l'autre. Est-ce que vous comprenez? Bon, etc., etc. Alors, on continue. Je n'ai marre, et on cite le verset dans le chapitre 17 de Bereshit, « Ve'achimcha Abraham, et ton nom sera, sera, ça veut dire irréversiblement, Abraham. » Donc, s'il sera Abraham, il ne faut pas qu'il reçoive, qu'il soit de nouveau Abraham. C'est clair? Bon, je continue. « Rabbi Eliezer Omer, Over Velav. » Rabbi Eliezer ajoute, non seulement, comme tu dis, toi, il viole un commandement positif, parce que, et son nom sera, il viole aussi un commandement négatif, puisqu'il est écrit « Velo ikare aot et shimcha Abraham » et ton nom Abraham ne sera plus nommé. « Ela me'ata » alors s'il en est ainsi, suivez au texte. « Akor ele Sarah Sarai achinami » ça veut dire celui qui appelle Sarah, l'appelle de nouveau Sarai, c'est la même chose, interdit. Non. « Hatam kutsham rishu amarle Abraham » en ce qui concerne Sarah, c'est Dieu qui a dit à Abraham « Tu ne l'appelleras plus Sarai » mais les autres doivent savoir que c'est ta princesse. Vous avez vu le raisonnement? Sarai, Ishtecha, Lutkare, et Shema Sarai, qui s'arrache. Et la Me'ata, là où je vais arriver, et alors s'il en est ainsi, Akorele, Akor, Yaakov, celui qui appelle Jacob, Jacob, Achiname, transgresse un commandement, puisque le nom de Jacob est devenu Israël. Shani, la Gemara dit, c'est un cas différent. Atam, de Hadar, Dare. Craint, dans le cas de Jacob, où c'est le verset qui revient pour l'appeler Jacob, dire-t-il, puisqu'il est écrit, on va voir ce verset, c'est dans le chapitre 15 de Memzaïn, dans la marge. Memvav, alors prenez le chapitre 46 dans Bereshit. Vayomer Elohim, les Israël, Bemarot, Alayla, Vayomer Yaakov, Yaakov. Alors on va prendre le chapitre 46, vous dites quel? Il me semble que c'est 47, mais on va voir. Alors, je ne sais pas où. Oui, ça doit être 47. Je vais vérifier. Attendez. Et verset. Attendez. Non, c'est peut-être 46. Attendez, je vais voir. Voilà, non, c'est bien 46 et le verset 2.
46, 2.
Voilà. Alors, je reprends la question de la Gemara. Alors, s'il en est ainsi, on pourrait penser que, comme dans le cas de Abraham, on n'a plus le droit de l'appeler Abraham. C'est clair? Et vous rappelez que ça signifie revenir à l'identité antérieure. C'est la même chose pour Jacob, puisque son nom est maintenant Israël. Et la promotion, si j'ose dire, Jacob-Israël, c'est l'achèvement de ce qui s'annonce en Abraham. Abraham. C'est clair pour tout le monde? C'est-à-dire, c'est au moment où Jacob reçoit le nom d'Israël qu'il s'avère que l'identité hébraïque est restaurée et le peuple d'Israël commence. Alors Gemara dit non. C'est un cas différent. Pourquoi? Parce que c'est le verset lui-même qui nous mène à nommer Israël de nouveau Jacob. Et nous allons voir dans quelles circonstances. Vous avez le verset sous les yeux? Et Dieu dit à Israël, suivez bien, mais Marot à Laïla, dans les visions de la nuit, et il dit, Jacob, Jacob, et il dit, me voici. Vous voyez, il y a certaines circonstances où Israël est nommé Jacob par Dieu. Première indication du verset, vous l'avez entendu, dans les visions de la nuit. Okay. Dans le jour, Jacob s'appelle Israël. Dans la nuit, Israël s'appelle Jacob. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, prenez le contexte. Le contexte, on va prendre le premier verset du chapitre 46. Lorsque Jacob a appris cette bonne nouvelle, Joseph est vivant en Égypte, et l'appelle et lui demande de descendre en Égypte, verset 1 du chapitre 46, « Vaïssa à Israël, et Israël décampa, Vecholachel, tout ce qui lui appartient, Vayabo Berachava, il arriva à Bercheva, Vaïsvar Zevachim, l'éloqué à vivre Israël. Et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Vous verrez vous-même, Rachid, qui cite le Midrash qui explique que Jacob était pris d'un doute, plus encore, il avait peur, peut-être n'ai-je pas le droit de descendre en Égypte, puisque Isaac, il était interdit de descendre en exil, et lors d'un événement précédent, vous le trouvez dans le récit, lorsque Isaac a la tentation de descendre en Égypte, après l'échec d'Ésaü, il peut se dire, c'est échoué, il faut recommencer, à partir de, et repartir de l'exil, Dieu l'arrête à Beersheba à Isaac en disant, non, toi, tu ne quittes pas le pays. C'est clair? Ça, vous avez un épisode précédent. Alors, lorsque Jacob, pour aller en Égypte, arrive à Beersheba, il est pris par ce doute, peut-être n'ai-je pas le droit. Alors, il invoque Dieu, le Dieu de son père, pour lui demander, est-ce que je veux cacher ou pas, okay? Est-ce que je peux, est-ce que je peux pas? Nous allons voir la suite. Alors, ça veut dire que quand Israël descend en exil, il s'appelle Jacob. C'est clair ? Quand Israël remonte de l'exil, quand Jacob remonte de l'exil, il s'appelle Israël. Mais on va lire quand même ces quelques versets. Verset 2. Et Dieu dit à Israël dans les visions de la nuit, et il lui dit, Jacob, Jacob, et il lui dit, me voici. Verset 3. Vayomer, il lui dit, c'est Dieu qui parle, Anochi Ael Eloke Avicha. C'est moi qui suis le Dieu de ton père. Al tira meredet mitzraïma, ne crains pas de descendre en Égypte. Kilegon yadol asim rachama, tcham, car je ferai de toi là-bas une grande nation. Anochi ered imcha. Moi, je descends avec toi. Tu es bien, mitzraïma, en direction de l'Égypte. Vanochi et alcha gamal. Et moi, même, je te ferai monter. Ve Yosef yashit yadol alaynecha. Et c'est Joseph qui placera ses yeux sur sa main sur tes yeux au moment de la mort. Encore un autre sujet. C'est-à-dire, à ce moment-là, Dieu indique à Jacob tu peux descendre et sache que je descends avec toi, mais sache que je te ferai remonter. Et vous voyez quel est le thème. C'est-à-dire que lorsque Jacob se craint, Israël doit descendre en exil, la Shrina doit descendre avec lui. Mais il y a une promesse que la Shrina fera remonter Jacob d'exil, et ça veut dire que la Shrina reviendra d'exil. Mais c'est le corollaire, je vous le rappelle. Et souvent dit, cet enseignement qui est authentique, que lorsqu'Israël est dans l'exil, la Shrina est en exil avec lui pour le protéger, mais cela implique que quand Israël est en exil pour le protéger, la Shrina est avec lui, mais est en exil de Shrina. Vous voyez pourquoi le nom d'Israël disparaît quand il descend en exil, parce que la Shrina est en exil, et le nom d'Israël disparaît. C'est lié. Je voudrais que vous lisiez encore un autre verset, on s'arrêtera là pour aujourd'hui, parce que l'heure est arrivée. C'est le premier verset de la paracha de Vayichi. Je vais donner un certain nombre d'indications des commentateurs, vous verrez comment se continue. C'est un dialectique du changement du nom d'Israël. Israël en Israël s'appelle Israël. Israël en exil s'appelle Jacob, dans le récit biblique. Prenez le verset 28 du chapitre 47, cette fois. Vous y êtes ? Vaïchi Yaakov Veret Mitzray. Et Jacob vécut au pays d'Égypte, Sheba Esrechana, 17 ans. Vaïchi Yaakov Shemechaya. Et ce fut les jours de Jacob, les années de sa vie, Shevar Shanim, Barbarim, Omer Shana, 7 ans, 40 ans et 100 ans, 147. Dans ce verset, on l'appelle Jacob, il est en Égypte. Suivez, verset 29, « Vaïkrevou yémé Israël, la mort. » Et les jours d'Israël s'approchèrent de la mort. Je résume beaucoup d'enseignements à ce sujet. La principale question que j'ai été posée, c'est la suivante. Comment le verset peut dire Vaïchi Yaakov Eretz Israël. Et Jacob vécut dans le pays d'Égypte. Parce qu'on peut vivre en Égypte, il faut donner Jacob. Si on veut nous donner le nombre des années de sa vie, en chiffre d'état civil, on peut le donner dans une autre forme, mais pas employer cette expression. Et Jacob vécut dans le pays d'Égypte. Okay. Très rapidement, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, mais ça vaut la peine d'être entendu. Je cite le Shlad, d'ailleurs. Et le Shlad dit, on nous a dit ceci, il a vécu dans le pays d'Égypte, 17 ans. Et puis ensuite, on nous donne le nombre total des années de sa vie. On a dû faire l'inverse. on nous dit qu'il est mort à l'âge de 2, et j'apprends par là, par une soustraction simple, que c'est 17 ans qu'il vivait en Égypte. Mais le fait que le texte dise qu'il a vécu en Égypte, ça choque. C'est clair ? La réponse, c'est que Jacob n'était vraiment vivant que si Joseph était avec lui. Or, il a vécu 17 ans au pays de Canaan avec Joseph. C'est à l'âge où Joseph avait 17 ans qu'il est descendu en exil en Égypte. Et 17 ans en Égypte avec Joseph, c'est clair, c'est ce qui fait qu'il a vécu vraiment que 34 ans. C'est la valeur numérique du mot « Vayhi » qui signifie « il a vécu ».« Vayhi », ça fait 34. Ça veut dire en réalité, il n'a vécu que 34 ans qu'il était en Égypte, 17 ans en Canaan et 17 ans en Égypte. Et à partir du moment où il s'est installé en Égypte, alors les jours d'Israël s'approchèrent de la mort. Ce que je veux indiquer, ce n'est pas qu'Israël est mort. Les jours d'Israël s'achèvent. Est-ce que c'est clair? Quand Jacob s'installe en Égypte, Israël est entre parenthèses. Vous voyez ce que dit le verset? Les jours d'Israël s'achèvent. Alors je voudrais ajouter une indication du Shla qui montre qu'il y a qui se base sur un procédé kabbaliste que j'ai expliqué simplement. Vous savez qu'est-ce que c'est que la valeur numérique des mots, mais il y a entre autres une distinction si le compte est un compte complet avec les dizaines, ou si on ramène tout au chiffre de la dizaine. Je prends l'exemple de Jacob. Ce qu'on appelle le Mispar Gadol, le grand compte des nombres, suivi avec Yaakov, Yud c'est 10, Haïm c'est 70, Kouf c'est 100, et Bet c'est 2, la valeur numérique en Mispar Gadol de Yaakov c'est 182. En Mispar Katan, on ramène tout à l'unité. Yud c'est 10, ça fait 1. Haïm c'est 70, ça fait 7. Kouf c'est 100, ça fait 1. Et Bet c'est 2. Donc la valeur en Mispar Katan, c'est 2, 3, 10, 11. Yaakov, en Mispar Katan, c'est 11. Alors que Mispar Gadol, c'est 182. C'est clair? Alors, lorsqu'on veut désigner l'identité, Bekatim, ça veut dire en ordre de petitesse, on emploie la valeur du Mispar Katan. Lorsqu'on veut désigner l'identité en ordre de grandeur, Gadlut, on emploie le Mispar Gadol. Or, le Shla indique que l'être a pour valeur numérique à Mispar Gadol, la Havaya, 26, mon Mispar Katan, 17. On va compter Yud. Ça fait 10, Hé, ça fait 5, Vav, ça fait 6, Hé, ça fait 5, ça fait 26. Mais si je ramène le Yud à l'unité, ça fait 17. Et le Shla enseigne, ça veut dire que Jacob, en exil, son maître est Bekatnout, en petitesse. Il vit en petitesse. C'est ce que dit le verset, et il a vécu 17 ans. C'est clair? Le chiffre 17, c'est le chiffre de la petitesse. Et alors, ce chiffre 17 entoure l'histoire de Joseph, l'histoire de Jacob. C'est le chiffre de la Galut, la Havaya Bekatnout. Si vous arrivez à Paris, vous avez deux adresses. 17 rue Saint-Georges, 17 rue Fortuny. Vous pouvez choisir. Et, bon, je vais m'arrêter là. Mais donc, nous avons un parallèle dans ces profils d'identité. De style araméen, c'est Abraham. De style hébreu, c'est Abraham. Alors voilà le secret, cette clé, si vous voulez, du récit. On va suivre les efforts d'Abraham pour devenir Abraham. Il nous faudrait 6 mois. Mais lundi et mardi, on prendra quelques coups de projecteur. Je vais prendre un exemple. Nous allons suivre et vous demander de lire les textes à l'avance. Vous allez suivre depuis le début de l'histoire d'Abraham, l'histoire parallèle de Lot. Comment Lot se sépare d'Abraham. Voilà un exemple qui nous montrera que Lot, qui aurait pu être un Abraham, est resté cet araméen qui restait en dehors de l'identité hébraïque, à sa manière. Et nous verrons que cette capacité d'être hébreu potentiel que Lot avait comme Abraham a échoué parce que Abraham se dirige vers l'unité des valeurs alors que Lot reste en dehors de l'unité des valeurs. Nous verrons sous cette forme lundi et mardi, alors que je donnerai la référence du texte au sacrement, cette histoire parallèle entre Lot et Abraham, alors que demain, donc, nous étudierons un texte du Talmud, qui est d'ailleurs relié comme illustration à la relation entre Israël et l'universel humain, la différence entre les goyim et Israël, du point de vue de la vertu. C'est un texte qu'on embarrassera, on le distribuera demain matin. Alors là, vous commencez votre lecture et vous dépisterez partout où on parle de Lot, au chapitre 11, et une minute. Vous prenez à partir du chapitre, du verset 27, du chapitre 11 de la Genèse, et vous suivez Lot à la trace. C'est fini? C'est fini, oui. Bon.